DW. Droits et libertés.
Parler de violence sexuelle, de viol, c'est toujours difficile. Alors dans des régions comme le nord du Nigeria, très religieuses, très conservatrices, c'est encore plus dur. C'est pourquoi des victimes ont lancé un hashtag pour briser le silence. Mais nous allons tout de suite commencer par un tour en Corée du Nord, un des pays les plus verrouillés au monde, et où le régime de Kim Jong-un fait preuve d'imagination, vous allez voir, pour contourner les sanctions internationales. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. En octobre 2018, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, s'est rendu à Pyongyang, la capitale nord-coréenne. Là-bas, il a été accueilli par un Kim Jong-un qui se déplaçait dans une Rolls-Royce toute neuve, un modèle à 400 000 euros. Or, l'entrée même de ce genre de véhicule de luxe dans le pays est interdite par l'ONU. Une façon donc pour le dirigeant Kim Jong-un de se moquer ouvertement des sanctions internationales. Oui, mais pas vraiment, de l'avis de Christoph Heusken. Il est le représentant de l'Allemagne aux Nations Unies.
C'est vrai qu'il y a contournement des sanctions et cela devrait être un signe à prendre en compte. Mais d'une façon générale, les sanctions fonctionnent. Il suffit de veiller, quand elles ne sont pas totalement hermétiques, à tout faire pour qu'elles le deviennent. Elles ont déjà permis que les tests balistiques qui constituaient une menace directe cessent. Et c'est déjà quelque chose.
Christoph Heusken dirige en ce moment le comité de l'ONU chargé des sanctions infligées à la Corée du Nord. Des experts du suivi de ces sanctions lui ont rendu, il y a peu, leur dernier rapport, qu'on pourrait résumer ainsi : le dirigeant de Corée du Nord est de plus en plus rusé.
Ils utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées et sont de plus en plus malins. Pour importer des matières premières en haute mer, ils utilisent des moyens qu'en 15 ans d'expérience, je n'ai encore jamais vu nulle part.
Par exemple, le système AIS, qui est un signal d'identification automatique émis par tout navire en haute mer et qui permet de blanchir les bâtiments qui figurent en fait sur liste noire à l'ONU en leur fournissant un autre signal. Alors, pour faire un peu plus simple, ce système donne à un navire une identité virtuelle pour contourner les interdictions. Ici, un cas d'école raconté par Hugh Griffiths, qui coordonne le comité d'experts pour le suivi des sanctions.
Prenons le navire Yuktung, c'est un bon exemple. Il lui a suffi de se faire passer pour son navire frère, qui lui n'est pas sous le coup de sanctions, alors que ce bateau-là croisait en fait à 6000 km de l'Afrique.
Il n'est pas rare en pleine mer que des bâtiments nord-coréens transportent du charbon de Corée du Nord pour l'échanger ensuite contre du pétrole. L'ambassadeur allemand près les Nations Unies, Christoph Heusken, affirme dans cette interview à la chaîne ARD que le rapport qu'on lui a remis récemment fait état d'entorses aux sanctions plus importantes que tout ce qui avait été rapporté jusqu'à présent.
Ce que dit ce rapport est vrai et important. Et il faut vraiment tout mettre en œuvre pour que cela cesse.
L'expert Hugh Griffiths le dit en des termes moins châtiés. Pour lui, ce qui se passe en ce moment dans les eaux internationales est complètement fou. Et côté sanctions envers la Corée du Nord, ce serait même l'anarchie. Le fait que Kim Jong-un circule dans des véhicules de marque occidentale interdites comme Rolls-Royce, Mercedes ou Lexus, c'est de la provocation. Oui, mais Christoph Heusken, l'ambassadeur à l'ONU, le répète, les sanctions contre la Corée du Nord existent toujours et elles commencent même à porter leurs fruits.
Ces sanctions ont une ampleur et une portée telles qu'elles ont déjà contraint le dirigeant nord-coréen à négocier. Il a renoncé à ses essais de missiles, c'est déjà un succès. Je dirais même que c'est un modèle de bon fonctionnement de l'ONU et du Conseil de sécurité. Ces essais ont pris fin et la menace qui existait encore il y a 2 ans a désormais disparu.
Encore un hashtag, me direz-vous, encore une riposte sur les réseaux sociaux aux violences sexuelles subies par des femmes. Oui, encore, et nous continuerons d'en parler tant que ces violences continueront, elles aussi. Et puis cette fois, ce n'est pas à Hollywood ou dans des sphères occidentales privilégiées qu'a été lancé le mot-clé ou hashtag du jour, mais bien dans le nord du Nigeria. Soumaya Abdulaziz est la mère de 10 enfants. Soumaya Abdulaziz, ce n'est pas son vrai nom, mais elle tient quand même à raconter son histoire, ou plutôt le calvaire enduré par sa petite fille de 8 ans. La maman veut éviter les éventuelles représailles, c'est pourquoi elle dissimule sa véritable identité, mais elle refuse de se taire. Pour elle et pour toutes les autres personnes qui vivent comme elle dans la ville de Kaduna, dans le nord du Nigeria, ainsi que dans le reste du pays.
C'était un garçon du voisinage. Depuis, ils ont quitté le quartier. Je ne veux plus jamais le croiser. Je ne sais pas où ils habitent maintenant.
L'année dernière, ce garçon a violé la petite fille de Soumaya Abdulaziz. La mère horrifiée raconte qu'on pouvait voir les traces du viol sur le corps de la fillette. Mais elle n'avait pas d'argent pour emmener sa fille à l'hôpital. Alors, elle l'a soignée avec des remèdes traditionnels. Soumaya Abdulaziz se souvient aussi des menaces du violeur et de sa famille si jamais elle allait porter plainte à la police.
Ils m'ont dit qu'ils diraient que la petite avait menti. Ils m'ont menacé de me poursuivre pour diffamation. J'ai abandonné et m'en suis remise à Dieu. Nous sommes pauvres et n'avons pas les moyens de faire quoi que ce soit.
Malheureusement, le cas de cette petite fille n'est pas un cas isolé à Kaduna et dans la région. C'est souvent que les familles renoncent à porter plainte, qu'aucune enquête n'est ouverte et que donc personne n'est jamais condamné pour viol. 98% des parents de victimes ne se rendraient même pas à la police, d'après la magistrate Saadatou Hama.
Et quand des cas sont quand même portés devant la justice, la plupart du temps, les parents des victimes réclament l'arrêt des poursuites ou ils sabotent le travail de la police et du parquet. Il n'y a jamais de condamnation.
Et c'est donc pour briser ce tabou et mettre fin à l'impunité qu'a été lancé le hashtag Arewa MeToo. Arewa, c'est le mot Haoussa pour désigner le Nord. Et MeToo est une référence bien sûr au hashtag qui s'est répandu sur les réseaux sociaux en 2017 pour permettre aux femmes de parler des violences sexuelles qu'elles subissent au quotidien. C'est une certaine Mariam Aiwassou qui aurait lancé le hashtag nigérian Arewa MeToo. Depuis, elle a été arrêtée, apparemment parce que quelqu'un aurait dénoncé un violeur en publiant son nom sur Twitter. Amnesty International a de suite protesté pour réclamer la libération de Mariam Aiwassou. Depuis cet épisode, plusieurs autres personnes ont affirmé être à l'origine de ce hashtag, d'autant qu'il en existait déjà un, Arewa MeToo Mina, pour l'État du Niger. Mais quelle que soit la personne qui a lancé cette campagne, la juge Saadatou Hama estime que le hashtag a permis de délier un petit peu les langues.
Grâce au hashtag Arewa MeToo, plusieurs cas ont pu être rendus publics. On a pu parler avec plusieurs personnes touchées. Ces cas sont vraiment tristes, même si les victimes ont plus de 15 ans. Je n'imagine même pas la torture que ces jeunes filles ont dû endurer.
La ministre des Affaires féminines et du Développement social de Kaduna se montre elle plus critique envers ce hashtag. On écoute Hafsat Mohamed Baba.
En fait, ça n'a pas servi à grand-chose. Certaines des histoires relayées sur les réseaux sociaux n'étaient pas vraies. Et des enquêtes ont été ouvertes pour diffamation. Sans doute même que certains devront rendre des comptes à la justice.
Hafsat Mohamed Baba met en garde contre une tendance à l'auto-justice, à la vengeance, c'est-à-dire au recours aux réseaux sociaux pour dénoncer des crimes ou leurs auteurs, plutôt que de faire appel aux structures de l'État qui sont là pour ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se taire, au contraire, précise la ministre, car, dit-elle, celle qui ne dit rien n'obtient pas d'aide. Oui, mais parler reste très difficile. Saadatou Hama estime que l'une des raisons pour cela est que les victimes sont de plus en plus jeunes. Elle a même vu des victimes qui étaient des bébés violés alors qu'ils avaient un an à peine. Les enfants, même plus âgés, ont souvent peur de parler. Ce à quoi vient s'ajouter un facteur social d'inégalité. Comme le précise Aïcha Ousmane, elle est militante des droits des femmes.
Ce ne sont pas les enfants des riches qui sont violés, ce sont ceux des plus faibles.
Aïcha Ousmane fait passer des tests de dépistage du sida aux enfants et aux adolescents violés. Elle est ainsi en contact étroit avec leur famille. Or, les parents les plus vulnérables ont souvent peur que leur petite fille violée ne trouve pas de mari plus tard, que la honte suscitée par le viol ne rejaillisse sur toute la famille. Ce qui fait que les victimes le sont doublement. D'abord, parce qu'elles subissent des violences atroces dans leur chair et dans leur tête, bien sûr, mais qu'ensuite aussi leurs proches les culpabilisent ou essaient d'étouffer leur douleur sous une chape de plomb. Et puis, raconte Aïcha, les parents les plus démunis sont souvent victimes de chantage de la part des violeurs. Je te donne de l'argent et en échange, tu te tais. Aïcha regrette que les responsables religieux qui ont beaucoup d'ascendance sur la communauté ne fassent pas davantage pour lutter contre ce fléau des violences sexuelles.
Les responsables religieux ne font rien. Quand quelque chose arrive, ils disent « nous sommes tous des musulmans, il ne faut pas que cela se sache ». C'est une honte pour notre religion et notre société.
C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Georg Schwarte et Catherine Gensler pour les sons. Retrouvez, réécoutez, téléchargez gratuitement Droits et Libertés dans la rubrique Nos podcasts de notre site internet dw.com/français. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure.